Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics et pas que. Je suis toujours au Pop Moine Festival et j'ai le plaisir d'être avec Noémie Fachan.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien et toi?
Oui, ça va. Je suis trop contente de te rencontrer.
Ça fait
un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux et tout, donc c'est chouette. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent
pas? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Noémie Fachan, alias Maedusa sur Instagram. Je suis autrice de bande dessinée. Je fais aussi des conférences de sensibilisation au sexisme auprès des entreprises et d'autres organisations. Et j'ai donc un personnage de bande dessinée qui s'appelle Maedusa Gorgone d'aujourd'hui et qui est un peu mon avatar, mon porte-parole pour prendre la parole sur les questions d'égalité des genres.
Justement, on va y revenir, mais avant ça, comment tu es arrivée au dessin et à l'écriture? Est-ce que tu as suivi des formations?
Rien du tout, je suis autodidacte totale. J'ai toujours dessiné, toujours écrit. J'ai gagné quelques concours de nouvelles, donc dans un premier temps dans ma vie, je pensais que c'était plutôt par là que peut-être je percerais un jour. Et puis finalement, comme beaucoup de gens, le confinement m'a un peu obligée à revoir plein de trucs sur ma vie et sur ma vie professionnelle notamment. Et donc c'est en début 2021 que j'ai lancé cette page Instagram sans...
C'est hyper récent finalement.
Ouais, ça fait 3 ans en fait. Ça fait 3 ans que la page existe et j'avais pas de stratégie du tout. Je m'imaginais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et voilà, donc je suis devenue artiste-autrice dans la foulée quoi.
Ok. Comment tu l'as vécu ce succès, cet engouement?
Vraiment de manière incroyable, ça a vraiment changé ma vie dans le sens où j'avais toujours, si tu veux, évité de mêler mon métier, enfin mon gagne-pain, mon travail, mon métier, etc. Je suis diplômée de communication et je ne voulais pas écrire ou dessiner sous la pression d'un rendu quelconque.
Donc, tu voulais pas mêler passion et travail.
C'est ça. J'avais besoin que ça reste ma récréation et donc j'ai fait ça pendant très très longtemps en fait. J'ai vraiment eu des jobs qui étaient pas du tout créa, qui faisaient pas du tout appel à ces compétences-là quoi finalement. Et donc le fait aujourd'hui d'être alignée avec ce que je fais, d'être satisfaite de mon travail, c'est nouveau en fait. Ça fait que 3 ans que ça dure quoi. Donc ça a bouleversé mon existence.
Comment tu définis ton style?
Mon style, alors il est pastel, il est doux pour contraster un petit peu avec les gorgones,
sujets,
avec les sujets, avec la colère des gorgones. Je dirais qu'il est simple dans le trait. Il a une certaine influence manga. J'ai vécu et travaillé au Japon pendant 8 ans.
Okay.
Donc je pense que mon trait est influencé par ça. Et puis j'aime bien le contraste entre la douceur des couleurs et le mordant du propos.
Et bon la question elle peut paraître simple, mais la gorgone, pourquoi?
Alors c'est toute une histoire. Voyage en Grèce. Il y a eu plein de choses en fait. Il y a eu une première rencontre avec le mythe de Méduse dans mon adolescence, un grand sentiment d'injustice parce que tout le monde la présentait comme c'est un monstre, et puis tu lis l'histoire et tu fais mais elle ne fait rien de mal. À part avoir des serpents sur la tête, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher quoi. Et puis beaucoup plus tard, je travaillais dans le domaine de la traduction et j'ai lu des choses sur les biais de traduction, notamment par rapport à la transmission des textes de l'Antiquité et des strates de biais sexistes qui s'ajoutaient les uns après les autres à travers les siècles pour finalement qu'on ait cette perception de la gorgone actuelle. Et puis encore plus tard, en effet, dans un moment où j'étais très paumée avec un job qui me satisfaisait pas du tout, avec une vie sentimentale terrible, avec une vie personnelle à l'arrêt également, je suis allée faire un tour en Grèce en solo. J'ai moi qui suis pas du tout spirituelle, rituelle et compagnie, ça fait pas du tout partie de mon quotidien, mais j'y suis allée avec des poèmes / prières à Athéna. Et c'était aussi un moment où c'était, tu sais, le Challengingtober d'octobre où les dessinateurs font une illustration par jour en suivant parfois des listes et tout. Et moi, les listes m'inspiraient pas, mais du coup, pendant ce voyage en Grèce, j'ai dessiné une gorgone par jour. Et en fait, comme il y a tout, tu sais, un lien entre Athéna et la Méduse dans ce mythe, ça fait partie du cheminement un petit peu de maturation de toutes ces idées-là jusqu'à finalement le lancement de la page. C'est un mythe qui me fascine vraiment, qui m'obsède, même le mythe de Méduse, et qui à chaque fois qu'on s'y penche, j'ai l'impression qu'il y a un peu des niveaux d'interprétation qu'on peut débloquer. Exactement.
Après il se passe quelque chose, moi j'ai fait la grève, c'était un de mes rêves parce que j'adore la mythologie grecque. Quand tu es dans les temples, quand tu vois les sites archéologiques, que tu ne crois pas en une certaine spiritualité ou que tu n'es même pas passionné d'histoire, c'est quelque chose.
Je suis bien d'accord avec toi.
Rien sortir,
Bien sûr.
C'était complètement fou.
C'est une émotion vraiment incroyable. Ouais. Malgré le monde, malgré l'aspect touristique de la chose.
Tu oublies les gens.
Honnêtement, oui.
On va tout petit peu parler de ton premier livre avant de vraiment aborder l'œil de la gorgone.
Ouais.
Tu parles des injonctions à la parentalité.
Ouais.
Pourquoi ?
Eh ben, tout simplement parce que alors moi j'ai 39 ans actuellement et à 35 ans j'ai fait une grande crise de panique. Tu sais, il y a même un terme pour ça, on appelle ça les panic years. Donc j'étais en plein dedans. C'était vraiment le truc un peu cliché de la meuf cis hétéro de 35 ans qui voilà ne trouve pas un partenaire stable et qui d'un seul coup ressent très très fort le fameux tic tac de l'horloge biologique et d'un seul coup tout le monde autour de moi s'est mis à me dire et alors toi quand est-ce que enfin il y a vraiment eu une pression qui s'est refermée sur moi et donc j'allais pas bien du tout. J'ai envisagé la congélation d'ovocytes, mais alors à l'époque c'était pas possible en France, il fallait aller en Espagne ou en Belgique, ça coûtait très cher. Non, c'était pas encore passé dans la loi.
Okay.
Et en fait c'est passé dans la loi quand j'avais 37 ans, et à 37 ans on n'est plus éligible.
Si j'ai du destin. Pas de
mais donc en effet bah voilà, ça a été mis de côté à cause de ça. Enfin voilà, j'ai à l'époque l'idée d'une parentalité solo, j'arrivais même pas à l'envisager, ça me terrifiait. Bon, donc je me sentais extrêmement impuissante et surtout en perte de contrôle en fait de cette espèce de destinée qui devait être la mienne vu que je suis une femme, n'est-ce pas? Et donc bah en fait, je suis allée en thérapie pour me calmer avec tout ça et j'ai été très bien accompagnée. Donc ça a été un travail de 9 mois, mais vraiment j'ai réussi à m'apaiser beaucoup là-dessus et à me dire bah en fait, dans une vie, on contrôle pas tout quoi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, contrairement à ce que le capitalisme adore nous faire croire et le patriarcat et tout ce qu'on veut, les individus sont loin d'être en maîtrise de ce qui leur arrive. Et donc cette partie-là de ma vie, c'est peut-être pas quelque chose que je vais pouvoir contrôler et décider complètement. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de recul avec ça et j'en suis arrivée à un peu la position qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire si ça m'arrive finalement la maternité, ce sera une grande joie avec plein de contraintes aussi, mais ce sera une grande joie. Mais si ça ne m'arrive pas, ce sera une grande joie aussi.
C'est ça, ouais.
Voilà.
Ouais.
Et donc c'est marrant parce que l'année suivante, je lançais la page Maedusa qui a eu un certain succès et donc les éditions Attier sont venues vers moi en disant on adore ce que tu fais, on parle de Maedusa entre nous à la pause déj et tout, on voudrait vraiment travailler avec toi, tu parles jamais de maternité ou de quoi que ce soit, nous on a une collection qui s'appelle Parentalité, on voudrait savoir
qui sont voilà. Vers toi, okay.
Est-ce que les injonctions à la maternité ça te parle? Je vais mais vous tombez super bien, ça va me faire ma troisième volet de thérapie en fait. Il y a eu le premier volet en thérapie, il y a eu le deuxième volet, le compte Instagram mon éducation féministe, et il y a eu le troisième volet qui va être faire un livre sur la question. Donc voilà,
incroyable. Et du coup, pour l'œil de la Gorgone, tu choisis 22 figures mythologiques.
Ouais.
Il y a eu énormément de parutions en ce moment sur les mythes, etc.
Ouais.
On a eu aussi Mythes et Meufs de Blanche-Abard.
Ouais,
on n'a pas
j'adore.
Que des mythologies grecques. Mais est-ce que tu t'es inspirée un peu de tout ça en disant, bon, on va voir ce que les copines font, on va aussi faire tes recherches un peu plus historiques?
Honnêtement, le voyage très peu. Si tu veux, ça a vraiment été, notamment, donc j'adore Mythes et Meufs. Et en fait, au moment où j'ai commencé à faire les premiers portraits de figures mythologiques sur mon compte, ça a été le moment où Blanche Sabat publiait via Matin, quel journal, justement Méduse et compagnie. Donc ça a été vraiment parallèle. Donc j'étais super contente en fait de voir la figure de Méduse, par exemple, qui popait chez elle aussi. Mais du coup, il n'y a pas eu d'antériorité en fait. Ça s'est fait dans le même mouvement.
Ouais.
Et oui, depuis, j'ai lu Mythe, miroir de nos sociétés de Laetitia Abadessieu,
oui,
qui est absolument génial aussi.
Fou, ouais.
J'ai découvert, alors c'est un petit peu différent, mais le podcast Vénus, c'est Pilait-elle la chatte de Julie Bozac, qui est super, qui parle davantage sous l'angle de l'histoire de l'art, mais enfin voilà, ça se recoupe aussi. Donc en fait, ouais, c'est pas vraiment une sorte de, enfin je fais pas de benchmark, tu vois, mais c'est vrai que pendant même le processus créatif, je me suis rendu compte que c'était toujours un sujet qui passionnait beaucoup, et c'est génial parce qu'on a chacune notre style et chacune notre
c'est
angle, et voilà,
et ça se complète en fait,
ouais.
Je trouve qu'il y a pas de,
et donc là on est au Pop Women Festival, mais sachez que mon ambition dans la vie, ce sera un jour de faire un festival de mythologie féministe et avec tout ce beau monde qu'on puisse décortiquer sous tous les angles. Ouais,
et quand je l'ai su, je t'ai envoyé un message direct.
Mais oui, c'est vrai. Ah, c'était toi ?
Mais oui, c'est moi. En fait, t'es passée à la librairie d'un de mes collègues.
Oui, tout à fait.
Librairie du Canal, d'ailleurs, je vous invite à y aller.
Ah, j'avais pas du tout compris que c'était toi.
Et
oui,
en
oui.
fait, comme je travaille dans l'événementiel, la com et tout, il m'a dit, contacte-la.
C'est ça, mais c'est tellement une idée floue, j'ai dû te dire, mais oui, c'est une super idée, mais pour l'instant, j'en suis au
oui,
point
mais
zéro.
C'est ça. Non, mais c'est ça, mais les meilleures idées commencent comme ça aussi. Hein.
Oui, c'est vrai, il faut bien commencer
mais
quelque part.
Ça.
Donc voilà, à force d'en parler, ça va finir par se réaliser.
Sur les réseaux sociaux, tu t'exposes beaucoup. tu parles de toi, de ta vie personnelle, tu fais des vidéos, etc. Est-ce que ça a été naturel? Est-ce que c'est facile de le faire?
Ouais.
Comment tu vois un peu cette communication sur le Instagram?
En BD, c'est très facile de le faire. Vraiment, quand c'est scénarisé, quand c'est dessiné, j'ai pas eu l'impression de m'exposer, en fait. Je sais à quel point nos histoires se ressemblent, à quel point le récit de l'une va faire écho chez l'autre. Donc, ça a pas du tout été une démarche de j'ai peur de parler de moi ou tout. Ça s'est vraiment fait de manière naturelle. Ce qui a été plus compliqué, c'est au moment où les livres sont sortis, il faut évidemment en assurer la promo. Et les maisons d'édition, les librairies, etc., elles aiment bien le format vidéo parce qu'elles sont plus confortables avec et tout. Et c'est, je suis loin d'être la seule, hein. Beaucoup de BDistes, illustratrices sont souvent un petit peu mal à l'aise au moment où il faut lâcher le rempart en fait de l'avatar dessiné pour se montrer soi. Et voilà. Et donc, c'est toujours. C'est toujours quelque chose avec lequel je suis moins confortable.
Si tu prends plaisir.
Ah oui, bien sûr. Enfin bon, moi j'adore parler en public. Ça, par contre, j'ai aucun problème pour ça. Ben, je suis conférencière aussi, donc vraiment être sur scène avec avec un micro, parler à des gens, c'est vraiment pas un souci. C'est pas du tout un facteur de stress. Par contre, c'est vrai que le format vidéo, j'aime moins quoi. Si j'avais les moyens techniques de pouvoir, par exemple, faire Maïdusa animée, tu vois, en animation, qui prenait la parole.
Et tu prendrais juste la voix, toi.
Exactement. Si j'avais ces compétences-là en animation, en fait, ça m'arrangerait. Je trouve que c'est bête, mais en fait, c'est plus fédérateur aussi. Les abonnés, les followers s'identifient davantage à mon avatar dessiné qu'à moi en tant que personne, en fait.
Ouais.
C'est plus facile au niveau de la projection aussi.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Mais bon, enfin, c'est pas une souffrance non plus, tu vois. Il y a aucun problème. Mais c'est vrai que je préfère toujours le format dessiné au format vidéo, quoi.
Ouais. Complètement. Mmh. Petite question autour du Pop Woman Festival.
Ouais.
Comment tu te sens sur ce festival? Est-ce que tu peux revenir un peu sur...
C'est extraordinaire ce festival, franchement. Alors moi, c'est la première fois que je participe.
Exactement.
Voilà, c'est ma première édition et je trouve ça incroyable. Alors déjà, c'est trop bien d'être... on est en fangirlisme total, c'est-à-dire qu'on se regarde les unes les autres et dire « Ah, trop bien, star, je te suis. »
Il n'y a pas que moi qui...
non, on est toutes comme ça. Donc ça, c'est un bonheur en fait de pouvoir se rencontrer. C'est vrai qu'on est... bien entendu, on n'est pas toutes parisiennes. Moi, j'habite à Lyon, par exemple. Donc voilà, c'est pas forcément évident de se croiser. On a un véritable espace pendant 2 jours, pendant 3 jours. On va pouvoir véritablement socialiser. Et oui, c'est une force. En plus, hier, quelqu'un, je ne sais plus qui, mais me disait, c'est politique en fait, vraiment de nous retrouver ici. Ça brise ce côté isolé qui le patriarcat est très très fort pour nous faire nous sentir isolés dans nos propres histoires et on le sait bien en effet grâce aux réseaux, aux publications, on se soutient, on s'achète les livres les unes des autres, etc. Certes, mais là le fait de se retrouver physiquement parlant, je trouve que c'est d'une puissance incroyable.
Ouais, complètement. Et écoute, pour finir, parce que je dois malheureusement te laisser, est-ce que tu peux nous parler d'un projet, peut-être un futur projet?
Oui, alors déjà il va y avoir par le festival qui est un projet, mais alors un petit peu flou encore, voilà, mais en fait ce qui est bien d'en parler comme ça, après t'es obligé de le faire parce que les gens te disent alors ce festival, donc c'est une sorte d'engagement. Au niveau édition, il va y avoir un tome 2 à Maternité, Miracle et Malédiction qui va sortir à la rentrée, qui va s'appeler Éducation, Écueil et Émerveillement, donc on est quelques années plus tard, tout de suite, voilà. Et puis il va y avoir également au début de l'année prochaine la suite de L'œil de la Gorgone, donc toujours des figures mythologiques revisitées sous un angle féministe, ça s'appellera La Voix des Harpies. Voilà pour les projets à venir.
C'est un truc qui donne envie.
Mais oui.
Écoute, merci beaucoup Noémie pour ce
moment.
Merci
à toi.
N'hésitez
un plaisir.
Pas surtout pas à la suivre sur Instagram et puis suivre ses parutions. Et puis nous on se dit à bientôt.
À bientôt.
Salut.